est au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Madame, à votre petit lever, le droit d'entrée est accordé aux grandes dames de la cour. Mais la préséance revient aux princesses du sang et à vos dames d'honneur. Viennent ensuite les valets et les gens de votre entourage.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Le débat politique en France et en Occident, en Europe et aux États-Unis est actuellement parcouru d'analyses, d'anathèmes et de plaidoyers concernant les relations entre les élites et les autres. La définition et les frontières de ces élites ne sont pas toujours très précises, pas plus aujourd'hui que hier, mais les multiples controverses qui s'attachent à la grande question des hiérarchies sociales suffisent à donner le goût de s'interroger sur celles-ci dans le passé pour comparaison sur leur réalité et aussi sur la perception que les contemporains ont pu en avoir. Ce matin, nous allons braquer notre attention sur une période particulière, les 16e, 17e et 18e siècles, et sur un milieu spécifique, l'entourage royal. La question du rang, la question des préséances, y gouverne l'organisation sociale. À travers titres et dignités, la grande affaire est celle de l'identité même des êtres et des lignages, d'où découle souvent le pouvoir des acteurs. Sous la fausse apparence d'une pérennité des structures individuelles et familiales, les tensions ne cessent pas d'être vives, parfois jusqu'à la violence, entre les courtisans et le prince, et surtout entre les aristocrates eux-mêmes. L'idéologie républicaine, en proclamant les hommes égaux en droit, peut apparaître comme ayant balayé tout cela. Et pourtant, à lire le savant ouvrage que mon invité Fanny Cosendet, maître de conférence à l'École des hautes études en sciences sociales, vient de consacrer à ce thème à l'époque des derniers Valois et des Bourbons, on se prend à penser que divers aspects de cet héritage sont encore bien vivants dans la France qui est la nôtre. Premier guide, La Fontaine.
Dès que les chèvres ont brouté, certains esprits de liberté leur fait chercher fortune. Elles vont en voyage vers les endroits du pâturage les moins fréquentés des humains. Là, s'il est quelques lieux sans route et sans chemin, un rocher, quelques monts pendant en précipice, c'est où ces dames vont promener leurs caprices. Rien ne peut arrêter cet animal grimpant. Deux chèvres, donc, s'émancipant, toutes deux ayant pattes blanches, quittèrent les bas prés chacune de sa part. L'une vers l'autre allait pour quelque bon hasard. Un ruisseau se rencontre, et pour pont, une planche. Deux belettes à peine auraient passé de front sur ce pont. D'ailleurs, l'onde rapide et le ruisseau profond devaient faire trembler de peur ces Amazones. Malgré tant de dangers, l'une de ces personnes pose un pied sur la planche et l'autre en fait autant. Je m'imagine voir avec Louis le Grand Philippe IV qui s'avance dans l'île de la Conférence. Ainsi s'avançaient pas à pas, nez à nez, nos aventurières, qui toutes deux étant fort fières vers le milieu du pont, ne se voulurent pas l'une à l'autre céder. Elles avaient la gloire de compter dans leur race, à ce que dit l'histoire, l'une, certaine chèvre au mérite sans père, dont Polyphème fit présente à Galatée, et l'autre, la chèvre amaltée, par qui fut nourrie Jupiter. Faute de reculer, leur chute fut commune. Toutes deux tombèrent dans l'eau. Cet accident n'est pas nouveau dans le chemin de la fortune.
Fanny Cosendet, bonjour.
Bonjour.
Et c'était convenable à vos yeux de commencer par La Fontaine? Il me semble qu'il y a déjà ramassé dans cette fable magnifiquement un certain nombre des thèmes que nous allons avoir à traiter ce matin.
En effet, La Fontaine traite précisément des enjeux qu'il peut y avoir aux préséances, mais aussi des dangers qu'il peut y avoir à ne pas céder le pas dans un certain nombre de situations. Et il fait référence là, avec l'île de la Conférence, à l'entrevue entre Louis XIV et Philippe IV d'Espagne pour la négociation de la paix des Pyrénées, c'est-à-dire la fin de la guerre entre la France et l'Espagne et la fin de la guerre de 30 ans, finalement.
Cette rencontre historique avait posé des questions de protocole ?
Des questions considérables, qui a été une des raisons pour lesquelles, comme d'ailleurs pour la négociation de la paix de la guerre de 30 ans, un traité de Münster et d'Osnabrück, des questions d'organisation, des signatures, et c'est la raison pour laquelle la signature s'est faite au milieu de la rivière de la Bidassoa, sur l'île des Faisans, parce que c'était un terrain neutre où il pouvait y avoir une signature équivalente.
Les deux chèvres, la fable est élue ici par Hélène Perdrière, sociétaire de la Comédie française. J'observais en commençant que le grand moment de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, pouvait donner le sentiment que l'on était passé vraiment d'un âge à un autre, l'âge de l'organisation sociale, fait d'ordre, d'inégalité, à l'âge où en principe tous les citoyens se retrouvaient sur le même plan. Est-ce que cette coupure est aussi brutale? Et si elle l'est, cela pose un problème du point de vue de la concordance des temps. Il est peut-être indu de vouloir faire un rapprochement ou au contraire, est-ce que vous êtes frappé par certaines continuités sous-jacentes?
Il y a en effet une rupture fondamentale qui est que sous l'Ancien Régime, tous les hommes ne naissent pas libres et égaux en droit. Et il faut avoir ça en tête. En fonction de la naissance, on est avec un titre et donc un rang inhérent à sa fortune et à son lignage. Avec la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme, le principe est posé que tous les hommes naissent libres et égaux. À partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a pas statutairement de position hiérarchique des hommes, ce qui existe d'ailleurs dans la religion chrétienne, puisque tous les fidèles sont fidèles de Dieu sur le même plan. Donc il y a cet arrière-fond anthropologique qui est réalisé d'un point de vue juridique avec la Révolution française. Ce qui se passe après la Révolution française, c'est que donc ce principe égalitaire est posé, mais si on considère que la hiérarchie est liée aux positions sociales et à la fortune, alors se rejoue autrement, d'une certaine façon, les questions de rang et de préséance. Et à cela s'ajoute, bien entendu, la question du protocole, qui est une étiquette organisée par l'État et qui est très très importante dans les sociétés post-révolutionnaires.
Oui, nous voyons bien qu'il y a encore de très vifs débats pour savoir qui, dans l'ordre des préséances républicaines, doit être avant l'autre ou après l'autre. On a été d'ailleurs amené en France, en 1989, justement le 200e anniversaire de la Révolution française, on a été conduit à demander à un préfet, Jacques Gandouin, de réformer le protocole pour répondre à toutes sortes de protestations. Et voilà ce qu'il disait à cette occasion dans le journal de Denis Astagnaud sur France Inter, le 15 septembre de l'an de grâce 1989.
Dans un domaine aussi figé et précis que celui du protocole des cérémonies officielles, le moindre changement apparaît comme une véritable révolution. Pourtant, un nouveau protocole va désormais régir le bon déroulement des remises de médailles et autres dépôts de gerbes. L'étiquette va mieux coller au temps moderne, puisque l'ancienne datait de 1907 et que, par exemple, aucune préséance n'était prévue pour les anciens présidents de la République. C'est le préfet Jacques Gandouin, remarqué autrefois pour son langage vert, mais aussi pour un guide du protocole et des usages, qui a été chargé de cette réforme. Il l'explique à Dominique Brocard.
Il était nécessaire de toiletter, comme on dit, le décret de 1907. D'une part, parce qu'un certain nombre d'institutions avaient disparu ou n'avaient plus le même rôle, comme les courtiers d'assurance maritime, comme les officiers du sceau de France. Et puis, il y a surtout des institutions nouvelles qu'il fallait donc placer. Il y avait une lacune, c'est que j'ai pensé que les anciens présidents de la République et les anciens Premier ministre devait avoir une place, parce que d'abord ils sont invités généralement dans les cérémonies, et puis vous avez des organismes nouveaux comme le Conseil supérieur de l'audiovisuel, comme la CNIL, la Commission d'informatique et liberté, comme le Conseil de la concurrence, comme la COB, etc. Bon, et aussi des autorités, comme le médiateur. Bon, alors où doit-on mettre le médiateur? Bon, voici ce qui a justifié, si vous voulez, la réforme du décret de 1907.
En tout cas, Valéry Giscard d'Estaing sera désormais au cinquième rang des personnages de l'État en tant qu'ancien président de la République, deux places devant Jacques Chirac, septième en tant qu'ancien Premier ministre.
Préfet vert, il faut expliquer, ce n'est pas qu'il était écologique, son langage était vert. En effet, l'épisode est resté célèbre, il était préfet en 1975, lorsque il avait cherché à raisonner un preneur d'otages et qu'il lui avait dit « Où que tu ailles, tu te feras piquer et con ». Alors là, je ne ferai pas de concordance des temps avec une période ultérieure. À l'époque, en tout cas, le mot était choquant et il a été fatal à sa carrière préfectorale. Mais ultérieurement, comme il avait d'autre part fait un guide sur les usages et les pratiques républicains, il avait été chargé du rapport que nous venons d'entendre. Il a joué par conséquent un rôle important.
Alors cet extrait est en effet tout à fait passionnant parce qu'on voit un certain nombre de points qui sont des choses qui perdurent depuis l'Ancien Régime. Par exemple, la nécessité de réajuster l'ordre des préséances et donc l'étiquette en fonction des nouvelles attributions, des nouveaux venus d'une certaine façon, en fonction des nouveaux titres qui apparaissent et de ceux qui disparaissent ou du moins qui n'ont plus la même importance dans la société. Donc ce réajustement qui est exprimé ici de façon très claire est quelque chose qui est continu. Sous l'Ancien Régime, le roi ne cesse en quelque sorte, en modifiant à la marge, de faire des réajustements.
Il y a toujours cette sorte de rencontre entre l'immuable, affiché comme légitime, y compris pour justifier un certain nombre de situations dans la hiérarchie sociale, et puis cette mobilité constante, cet ensemble de tensions que vous nous montrez très bien. Norbert Elias, fameux historien, avait insisté sur les progrès de la civilisation. Et vous-même, vous mettez l'accent sur ce qui peut être au contraire conflictuel, ce qui bouge, ce qui s'affronte.
Dans la mesure où effectivement les questions de rang sont associées à des questions de position de pouvoir, les milieux de pouvoir ne sont pas toujours des milieux de calme et de sérénité.
Aimable litote.
Et à partir de là, effectivement, les questions de préséance sont des questions de tension très très forte entre les différents acteurs politiques. Alors Norbert Elias a insisté sur le fait que la cour elle-même, l'entourage royal et la société qui y était associée, étaient un lieu de civilisation et notamment sous Louis XIV, parce qu'il a beaucoup travaillé en sociologue sous Louis XIV, sur la cour de Louis XIV à partir des mémoires de Saint-Simon, il a insisté sur le fait que c'était un lieu de pacification par rapport à une noblesse qui est une noblesse de guerre, par ailleurs. Mais, pour autant, c'est aussi un monde de très très fortes tensions.
Ce que montre déjà Emmanuel Leroy Ladurie dans un ouvrage important qu'il avait consacré aux mémoires du duc de Saint-Simon.
En effet, en reprenant les mémoires de Saint-Simon, Emmanuel Leroy Ladurie a montré pour sa part comment s'organiser la hiérarchie et les problèmes que ça pouvait poser, et notamment la question des bâtards royaux sur lesquels il a beaucoup insisté et dont Saint-Simon parlait comme du sang impur de nos rois.
Mais je voudrais que nous revenions plus en arrière avant d'en venir au roi Soleil. Vous nous montrez très bien que au XVIe siècle, à l'époque des Valois, les choses sont beaucoup moins figées, beaucoup moins solennelles. On a presque envie de dire « bon enfant » par moment autour des rois. Et on voit progressivement se préciser et se figer cette idée de la hiérarchie. On met plutôt l'accent, si je vous dis bien, sur l'accessibilité du prince à son bon peuple.
Il faut avoir en tête, pour toute la période, d'une part qu'il n'y a pas de règlement strict des hiérarchies, comme on va avoir pour la période républicaine, ensuite un protocole fixé tel qu'on l'a vu dans l'extrait précédent. Alors ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que le roi de France, pendant toute son existence et pendant toute la monarchie française, est un roi accessible à tous ses sujets. Simplement, l'appareil monarchique qui l'entoure devient de plus en plus important, de sorte qu'il est de moins en moins accessible. Mais il continue à se montrer lors des entrées royales et finalement par des tableaux, etc., qui diffusent dans l'ensemble du royaume. Ce qui se passe sous Henri II, à partir d'une querelle de préséance, un peu bêta d'une certaine façon, entre des ducs qui représentent les anciens pairs du royaume et qui veulent se placer les uns et les autres devant, Henri II fait chercher les précédents, et donc fait chercher dans les archives, en fait, par Jean Dutillet, qui dit, voilà quels étaient les précédents, donc voilà comment nous allons organiser les choses.
Dutillet, c'est le spécialiste qu'on charge de faire cette enquête.
Dutillet est un protonotaire et effectivement spécialiste des archives d'une certaine façon. En cherchant dans le passé, il va figer d'une certaine façon le futur puisqu'il dit tout ce qui se fait et ce qui se fera. Et donc, à partir de ce moment-là, les enjeux de préséance deviennent d'autant plus importants que les choses se figent à chaque événement d'une certaine façon, détermine le futur.
Au point que certains rois sont obligés de dire « Nous avons adopté telle hiérarchie, tel ordre de préséance pour cette cérémonie, mais ce ne sera pas définitif. »
Au point que certains rois, devant des querelles qui surgissent et où ils ont besoin de prendre des décisions immédiates sans avoir le temps d'aller chercher dans les archives ou de faire chercher, décident effectivement que c'est sans conséquence pour la suite.
Les deux chèvres de La Fontaine se targuent en effet d'une naissance très brillante en remontant à la mythologie grecque. Ironie.
La Fontaine à la fois se moque et souligne quelque chose. Il se moque parce que les grands, effectivement, font remonter jusqu'à des ancêtres qui sont parfois mythiques. Et donc là, il s'en moque. Mais d'un autre côté, il souligne aussi l'importance d'avoir une profondeur généalogique et des hommes célèbres dans l'histoire de France, d'une certaine façon, qui leur permettent de revendiquer une position d'exception.
La notion d'antériorité de l'entrée dans la noblesse est fondamentale.
Parce que le rang se fixe aussi selon l'ancienneté que l'on a dans le titre, ce qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs, puisque d'une façon générale, la règle veut que le plus ancien dans le titre le plus élevé soit celui qui passe devant.
Oui, cette idée est restée telle quelle, compris dans la haute fonction publique ou dans le monde politique.
C'est un principe fondamental qu'on retrouve dans d'autres sociétés d'ailleurs. C'est un principe quasiment anthropologique.
À égalité, parce qu'évidemment, ça n'empêche pas que les fonctions... Aujourd'hui, par exemple, l'ordre qui a un peu changé par rapport à la Troisième République est le président de la République, ensuite le Premier ministre. Sous la Troisième, c'était le président du Sénat qui arrivait en second. Maintenant, il arrive en Troisième, puis le président de l'Assemblée, ce qui facilite effectivement la disposition de personnalités majeures en rang d'oignon. Rang d'oignon, ça vient d'un baron d'oignon, vous nous apprenez ça?
On dit que le... En rang d'oignon viendrait effectivement du baron d'oignon qui était un des maîtres des cérémonies et qui mettait les rangs. Et à partir de là, donc au XVIe siècle, hein, sous Henri III, et à partir de là, on organise en rang d'oignon.
À l'époque des guerres de religion, Catherine de Médicis, la mère des trois rois successifs, joue un rôle important dans l'élaboration d'un protocole plus figé.
Catherine de Médicis est un personnage qui est très intéressant. D'abord parce qu'elle est extrêmement effacée pendant toute la période où elle est reine régnante, d'une certaine façon, c'est-à-dire pendant la vie de son mari, Henri II. Et elle se révèle une redoutable actrice politique dès qu'elle entre dans la régence, en 1560. À ce moment-là, effectivement, en pleine guerre de religion, elle va dire à son fils, qui est encore un enfant d'une dizaine d'années, elle lui enjoint de mettre de l'ordre dans sa cour. Ce sont des choses très importantes dans le rôle politique de la hiérarchie, mettre de l'ordre pour mieux ordonner dans tous les sens du terme, c'est-à-dire non seulement mettre de l'ordre, mais donner des ordres. Et c'est pourquoi elle dit à Charles IX, il faut que les heures de lever, les heures de séance au conseil, les heures de loisirs soient fixées et l'accession au prince lui-même soit conditionnée selon la naissance et la qualité des personnes.
Est-ce qu'on arrive aussi en carrosse ou non? Est-ce qu'on entre à pied dans la cour? Jusqu'à quel endroit? Jusqu'à quelle intimité du prince?
Alors à partir de la hiérarchie, se met en place effectivement toute une série de privilèges. Des privilèges visibles qui sont des marques de la dignité. Et seule la famille royale est autorisée à entrer en carrosse dans la cour. Et puis petit à petit sous Henri IV, puis par la suite d'autres, pour des raisons, parce que certains, comme le duc de Schoenberg par exemple, a de la goutte et ne peut pas faire le trajet à pied. D'autres viennent pour jouer avec le roi et ont peur de se faire suriner, comme ils disent, c'est-à-dire de recevoir un coup de couteau en traînant dans la cour du palais la nuit. On les autorise à venir également en carrosse. Donc le privilège se répand de plus en plus et s'affaiblit de ce même fait. Mais en revanche, ça crée d'autres conflits, puisqu'alors à ce moment-là, il faut savoir quel ordre les voitures vont-elles prendre dans la cour du palais. Donc à chaque fois qu'il y a une modification, il y a d'autres problèmes qui se posent, qui sont du même ordre.
Donc tension toujours sous l'apparence de l'immuable.
Tension toujours pour marquer des distinctions.
Et effort constant de fixer les choses pour éviter que le roi, que le souverain soit obligé d'arbitrer parfois à son dépens entre des querelles majeures. D'où le règlement de 1585 avec l'apparition du grand maître des cérémonies qui est l'ancêtre de celui que nous appelons aujourd'hui le chef du protocole.
Après Henri II, le jeu que vont jouer les archives dans l'organisation de la cour, à ce moment-là, les archives se multiplient d'elles-mêmes, puisque chaque cérémonie va être soigneusement consignée.
Les cérémonies, c'est le sac, les funérailles et les entrées des souverains dans les villes.
Les lits de justice, les tédéum, beaucoup aussi de processions. Pendant toutes les guerres de religion, les rois font énormément de processions. Et tout ceci est consigné, puisque c'est des démonstrations de l'ordre du royaume à chaque fois. Donc tout ceci est consigné et la création du grand maître des cérémonies consiste autant à mettre de l'ordre dans les cérémonies qu'à consigner les cérémonies et à rechercher dans les archives pour organiser les nouvelles en fonction des précédents.
Ce règlement de 1585 stipule ce passage significatif, stipule ceci, Sa Majesté défend qu'aucun soit si outrecuidé, qu'aucun n'ait l'outrecuidance, que de s'asseoir dans la chaise réservée pour sa dite majesté, ni s'appuyer dessus, s'asseoir ou appuyer sur les lits d'icel ou coffres de sa chambre, ni de toucher à aucune chose qui soit sur les buffets, comme à l'aiguière, coupe, bouteille ou flacon, pain, linge et autres choses, sinon ceux à qui il est permis par leurs offices. Il est interdit aussi de se promener dans les chambres et cabinets de Sa Majesté et se contiendra chacun qui y entrera avec toute modestie, tant en gestes qu'en paroles. Veut aussi Sa Majesté que ceux qui doivent porter épée ne puissent aller au susdit lieu sans avoir leur dite épée aux côtés. Et s'ils y faillent, Sa Majesté entend qu'on les fasse sortir. Et clairement, il ne s'agit pas là de constituer un roi normal, pour reprendre l'adjectif contemporain qui a fait Florès.
Pas un roi normal, encore que. Parce que pendant toutes les guerres de religion qui commencent dans les années 1560, au début des années 1560, et qui se finit avec, en 1598 avec l'édit de Nantes, pendant toute cette période, le prince cherche à organiser sa cour, et en fait, qui est un vaste désordre. Ce que manifestent tout à fait les termes du règlement de 1585, qui est un règlement qui reprend celui de 1578, qui reprend un certain nombre de précédents. Ce que ça montre aussi, et ça c'est très important, c'est la crainte qu'a le roi de voir circuler partout dans la cour des gens susceptibles de menacer sa vie, crainte qui n'était pas totalement infondée.
Nous l'avons bien vu dans l'histoire, effectivement, Henri III et Henri IV, l'un après l'autre, estourbis.
Alors Henri IV, il est à l'extérieur de la cour, mais Henri III a été assassiné dans sa chambre.
Pour faire entendre à nos auditeurs, Fanny Cosandet, ce que pouvait être deux siècles plus tard l'effet de cette évolution, cet effort de reprise en main par le roi du quotidien des courtisans, voyez cet extrait des mémoires de Madame Campan, mémoire fameux, elle a été la première femme de chambre de Marie-Antoinette. Ils sont publiés en 1822, lus ici par Jacques Lenoble dans Les Chemins de la Connaissance sur France Culture, le 13 septembre 1990.
L'habillement de la princesse était un chef-d'œuvre d'étiquette. Tout y était réglé. La dame d'honneur et la dame d'atour, toutes deux, si elles s'y trouvaient ensemble, aidées de la première femme et de deux femmes ordinaires, faisaient le service principal. Mais il y avait entre elles des distinctions. La dame d'atour passait le jupon, présentait la robe. La dame d'honneur versait l'eau pour laver les mains et passait la chemise. Lorsqu'une princesse de la famille royale se trouvait à l'habillement, la dame d'honneur lui cédait cette dernière fonction, mais ne la cédait pas directement aux princesses du sang. Dans ce cas, la dame d'honneur remettait la chemise à la première femme qui la présentait à la princesse du sang. Chacune de ces dames observait scrupuleusement ses usages comme tenant à des droits. Un jour d'hiver, il arriva que la reine, déjà toute déshabillée, était au moment de passer sa chemise, je la tenais toute dépliée. La dame d'honneur entre, se hâte d'ôter ses gants et prend la chemise. On gratte à la porte, on ouvre, c'est madame la duchesse d'Orléans. Ses gants sont ôtés. Elle s'avance pour prendre la chemise, mais la dame d'honneur ne doit pas la lui présenter. Elle me la rend, je la donne à la princesse, on gratte de nouveau, c'est madame, comtesse de Provence. La duchesse d'Orléans lui présente la chemise. La reine tenait ses bras croisés sur sa poitrine et paraissait avoir froid. Madame voit son attitude pénible, se contente de jeter son mouchoir, garde ses gants et en passant la chemise, décoiffe la reine, qui se met à rire pour déguiser son impatience. Mais après avoir dit plusieurs fois entre ses dents « C'est odieux, quelle importunité !»
Texte, j'imagine, succulent pour vous, Fanny Cosendet, puisque votre premier ouvrage était consacré à la reine de France, symbole et pouvoir.
Alors cet extrait montre bien, d'une part, la position centrale des souverains, de la reine ou du roi, et d'autre part, tout le cérémonial qui l'entoure et qui met en valeur cette position centrale au point, d'une certaine façon, de figer, de rouiller la mécanique cérémonielle, puisque la reine finit par risquer d'avoir froid en attendant sa chemise. On a les mêmes histoires sous Anne d'Autriche, par exemple, pour la distribution du mouchoir. Si la reine fait tomber son mouchoir, alors la première dame doit la passer à la duchesse, qui doit la passer à la princesse, qui doit la passer à la reine, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, et ça c'est les mémoires de Madame Campan qui sont écrits après la Révolution française, et qui présente aussi un monde un peu rêvé de la cour d'autrefois. Évidemment, pour que la cour fonctionne bien, y compris dans l'entourage royal, tout ceci est beaucoup plus souple dans le fonctionnement général du quotidien.
C'est peut-être le lieu d'évoquer l'usage du tabouret. Tabouret qui est resté fameux comme un symbole de ces pratiques curiales de la cour.
Le tabouret est une des marques de distinction. À partir de ce moment-là, donc, de privilège d'une certaine façon, réservé aux duchesses, en principe. Qui a le tabouret a rang de duchesse. Hein. La reine Anne d'Autriche va en profiter au début de sa régence pour favoriser un certain nombre de dames de la cour qui ne sont pas nécessairement duchesses, d'où des querelles qui arrivent à ce moment-là. C'est une façon, avec la distinction, de marquer la préférence politique et donc le soutien de certaines familles au détriment d'autres lors d'une faiblesse du pouvoir royal. Sous la fronde, au moment où les Mazarinades, qui sont ces textes satiriques qui circulent un peu partout, le sujet est évidemment tout à fait délicieux parce que c'est l'occasion de railler en quelque sorte ces distinctions un peu absurdes et surtout derrière ça, la taille des derrières et la taille des tabourets dont ils font des satires assez truculentes.
À la cour, depuis quelques jours, certains tabourets qu'on accorde ont produit différents discours et causé beaucoup de discorde. Ainsi, ce ne sont plus vos yeux, beau sexe trop ambitieux, qui font les désordres des hommes. Ceux qui parmi nous ont vécu savent que le trouble où nous sommes ne provient que de votre cul. Fin de citation.
Alors c'est typique justement d'une dénonciation, d'une part de l'ambition qui fait qu'on cherche à obtenir un tabouret lorsqu'on n'en a pas nécessairement le droit, le titre, et d'autre part du côté dérisoire de cette distribution des distinctions, alors même que Paris est soulevé, que la France est quasiment en guerre civile à l'intérieur du royaume et en guerre à l'extérieur du royaume.
À partir de la situation que nous décrivons, Fanny Cosendet, on voit se développer des sortes d'officines chargées de rappeler le passé, des ateliers de mémoire qui emploient un grand nombre de collaborateurs, qui annoncent un peu nos généalogistes d'aujourd'hui, qui vont parfois tracer les origines des familles, surtout pour des raisons matérielles.
À partir du moment où l'ordre est fondé sur les précédents, Et donc, que la preuve de l'écrit est indispensable pour montrer les droits que l'on a au rang, à ce moment-là, les nobles qui sont en procès, d'une certaine façon, qui se disputent, vont mobiliser des érudits qui vont aller rechercher des preuves des droits de leurs clients.
Réels ou imaginaires ?
Généralement réels, mais généralement réécrits d'une certaine façon en faveur du client. Comme ça se fait un peu, y compris à l'heure actuelle, dans les procès. Et alors se développe effectivement tout un monde d'érudits avec des officines, des clercs qui vont aller chercher les informations, qui vont les copier et qui vont construire des mémoires en pour ou en contre. Et ces mémoires-là, ils vont les garder précieusement parce que d'autres vont chercher à s'en saisir pour répondre aux arguments et donc essayer de voir quelles ont été les preuves développées par la partie adverse. Donc on a tout un petit monde, en fait, de copistes, mais aussi éventuellement d'espionnage, d'usurpation des textes, etc., pour favoriser son client au détriment d'un autre. C'est assez rocambolesque dans un certain nombre de cas. Ça montre aussi qu'il y a des gros enjeux financiers derrière, puisque les nobles, enfin les hommes et les femmes qui se querellent, sont prêts à payer souvent assez cher des érudits. Et donc les érudits eux-mêmes sont prêts à payer des agents pour aller s'informer à droite, à gauche. Donc ce sont des enjeux qui sont pas du tout négligeables dans cette société-là. Alors, c'est quelque chose qui aujourd'hui, évidemment, n'existe plus, sauf que l'importance des archives dans le protocole et l'importance des précédents qui peut déterminer le présent, et on le voyait encore avec ces académiciens qui refusaient que soit marqué leur nom à un mauvais endroit, d'une certaine façon, montre que le rôle des archives est encore tout à fait prégnant de nos jours.
Le caractère dérisoire de l'expression des suprématies, des hiérarchies, est une constante. D'ailleurs, Louis XIV lui-même en fait presque la théorie. C'est d'ailleurs un des plus visibles effets de notre puissance que de donner, quand il nous plaît, un prix infini à ce qui, de soi-même, n'est rien. Il est à propos non seulement d'user des marques purement honorifiques que nos pères ont introduites quand nous le pouvons, mais même d'en inventer quelquefois de nouvelles, pourvu que ce soit avec jugement, avec choix, avec dignité. Fin de citation.
C'est pas quelque chose qui a complètement disparu, puisque la distribution des médailles, des prix, des distinctions relève de la même chose, c'est-à-dire que c'est une façon, malgré tout, de distribuer de la grâce, de l'honneur, sans bourse déliée. Et donc, en fait, de s'attacher des fidélités pour le roi, de s'attacher des serviteurs, sans avoir nécessairement à distribuer de l'argent, surtout quand les caisses sont vides. C'est pas complètement un hasard si c'est sous Henri III, c'est-à-dire pendant les guerres de religion, que le cérémonial prend de plus en plus d'ampleur à un moment où le roi n'a plus rien à donner, où les caisses de l'État sont vides et où les domaines ont déjà tous été aliénés. Et là, il fabrique de l'honneur par de la distinction hiérarchique.
La République d'aujourd'hui aime à décorer un certain nombre d'étrangers en particulier qui ont pris figure d'amis spécifiques de la France et qui peuvent arborer ensuite, homme ou femme, sur leurs vêtements le signe de cette distinction. Ça ne coûte rien effectivement à l'État et c'est souvent très prisé.
Louis XIV insiste sur le fait que la distribution des dignités, des marques de distinction, doit se faire avec un certain discernement. Et c'est très important, y compris maintenant, la distribution des différentes distinctions républicaines, si elle se fait sans discernement, c'est-à-dire si elle est attribuée à des gens indignes, par exemple, alors ces distinctions elles-mêmes perdent de leur qualité, d'une certaine façon, de leur éminence.
C'est pour ça qu'il y a une surveillance de l'ordre, de la Légion d'honneur et du mérite qui s'efforce de tamiser éventuellement des propositions qui leur paraissent malvenues. Eh bien, écoutez, quant à l'actualité de ce genre de querelle, dont on jugera à son gré l'importance relative par rapport à d'autres tensions contemporaines, écoutez cet article paru dans le Figaro le 13 novembre 1989, qui est lu ici par Jacques Lenoble dans Les Chemins de la Connaissance, là encore sur France Culture, le 10 septembre 1990.
Les anciens combattants ont été à l'honneur pour les cérémonies commémoratives du 11 novembre, mais pas les académiciens. les places réservées à ceux-ci, près de l'Arc de Triomphe, samedi, sont restées vides. Les immortels entendaient protester contre le décret qui rétrograde leur secrétaire perpétuel dans la hiérarchie protocolaire des corps constitués et qui les fait passer eux-mêmes, membres d'une institution datant de Louis XIII, derrière des organismes comme la Commission des opérations de bourse. L'Académie devait bouder de la même façon la messe aux Invalides dimanche.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Voltaire qui se moquait, par le truchement du burlesque, qui se moquait de l'excès de ces hiérarchies et de leur affirmation sous Louis XIV, aurait eu plaisir aussi à se faire railleur à ce propos.
Alors Voltaire effectivement insistait sur le fait que les querelles de préséance pour lui étaient quelque chose non seulement de grotesque mais d'archaïque, de totalement dépassé à ce moment-là. Et il insiste en disant, à mesure que les pays sont barbares ou que les cours sont faibles, le cérémonial est plus en vogue. La vraie puissance, dit-il, et la vraie politesse dédaignent la vanité. Et il se moque des querelles qu'il peut y avoir lors de l'enterrement des obsèques d'Henri IV ou qu'il peut y avoir lors des cérémonies extrêmement prestigieuses où on les voit se disputer pour une bougie allumée qu'on doit distribuer. Alors, ce qui est intéressant dans l'extrait qui est passé et dans ce rapport, en quelque sorte, au cérémonial, c'est aussi la question de l'absence. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que les académiciens, dans l'extrait qui est passé, dédaignent la cérémonie, refusent d'y aller parce qu'ils ont une mauvaise place. Le résultat, c'est qu'effectivement, ça ne crée pas de précédent, puisqu'on ne peut pas dire qu'ils étaient derrière d'autres à cette cérémonie, puisqu'ils n'y étaient pas, mais ça crée une absence qui fait qu'il faut qu'ils retrouvent leur place ensuite, ce qui n'est pas toujours facile. Donc cette contestation par l'absence est quelque chose qui est à double face. Pour le roi ou pour la République, ça n'est pas complètement neutre non plus, puisque c'est une façon de manifester qu'on n'a pas été capable de mettre l'ordre tel qu'il doit être.
Ordre dont le roi, le souverain, est comptable au premier chef. Il lui revient constamment d'organiser les choses pour amoindrir le risque que de querelles, quitte à ce qu'il y ait en effet des absences. Le duc de Nevers s'en va comme ça.
Le duc de Nevers, sous Charles IX, s'en va plus que comme ça d'une certaine façon, parce que mécontent de son rang entre quatre ducs et princes étrangers, il refuse de rester à la cour au moment des guerres de religion, c'est-à-dire au moment de la guerre civile, et il dit, puisque c'est ainsi, ceux qui sont les plus mauvais courtisans sont ceux qui sont les mieux servis, et donc, sous-entendu, je deviendrai un mauvais courtisan, sous-entendu, je pars avec mes troupes et je rallie la partie contraire. N'est pas neutre de fâcher un grand dans l'ordre des rangs.
La violence explose aussi symboliquement lorsque un duel aboutit à la mort d'un des nobles combattants. Je pense au duc de Nemours, par exemple.
Alors effectivement, les querelles de préséance, c'est quand même assez exceptionnel, mais peuvent donner lieu à des enjeux tels, en fait. Et souvent, ce sont souvent des querelles sur plusieurs générations. Mais lorsque les princes ne veulent céder ni l'un ni l'autre, à ce moment-là, il le règle sur le champ de bataille, si j'ose dire, et le duel a été fatal, en l'occurrence, au duc de Nemours, sous la Fronde. Toujours dans cette période de guerre civile, ce qui n'est pas neutre non plus.
Il y a un autre aspect de ces querelles et de ces hiérarchies qui nous ramène peut-être à certaines observations qui peuvent se développer actuellement. Fanny Cosendet, je veux dire les relations entre l'argent et ses préséances. Au fond, il y a trois catégories de personnages qui aspirent à être bien placés. Ceux qui sont les féodaux, les héritiers d'un fief. Il y a les officiers du roi. Et puis, il y a les prélats, les gens d'église, sur lesquels vous insistez moins.
Il faut regarder sur le très long terme pour voir en quoi la société a changé assez fortement entre le début du XVIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. Parce que comme les querelles de préséance sont toujours entre deux personnes de dignité équivalente, lorsque le roi va favoriser l'une ou l'autre, il modifie à peine en fait l'ordre général. Mais à force de modifier à peine, sur le très long terme, on voit des déplacements d'envergure. Et c'est ce qu'on voit très bien notamment entre la noblesse d'épée, qui est la noblesse féodale, traditionnelle appui de la monarchie, et ce qu'on appelle la noblesse de robe, c'est-à-dire les officiers, qui sont des serviteurs de l'État, d'une certaine façon, l'ancêtre des fonctionnaires, on pourrait dire, et qui ont tendance à monter en puissance sous les Bourbons.
Et qui ont acheté leur charge.
Qui ont acheté leur office, mais qui très souvent le transmettent à leurs enfants et de génération en génération. Donc on a des dynasties de noblesse de robe, comme on peut avoir des dynasties de noblesse d'épée. Et ce qu'on voit sous Louis XIV, c'est que la noblesse d'épée et la noblesse de robe peuvent commencer à se quereller entre eux, ce qui montre que la noblesse de robe est montée assez haut pour être au niveau d'une querelle avec des nobles d'épée, ce qui était impensable un siècle plus tôt.
Et où sont les ministres? Il y a un garde des Sceaux fameux du Vert qui se prend de querelle avec des nobles de longue lignée.
Sous Louis XIII, le garde des Sceaux du Vert estime que sa fonction est si éminente qu'elle doit passer devant les ducs et pairs.
Même si elle est provisoire par nature.
Mais elle est provisoire. Et donc les ducs et pairs disent « cette fonction, en fait, ne fait pas la dignité de l'homme et donc l'homme doit s'effacer devant nos qualités imminentes ». Ce qu'on retrouve actuellement encore sont des enjeux entre des postures momentanées et puis des états, en quelque sorte, c'est-à-dire des qualités qui restent pour très longtemps.
Et c'est là qu'on retrouve souvent le poids de l'argent, puisque acheter un office, c'était très cher. Et je vais vous donner à entendre, il fallait naturellement qu'il soit présent dans cette émission, Fanny Cosendet, un extrait des mémoires de Saint-Simon, lu ici par Guillaume Gallienne, sur France Inter le 5 septembre 2015. Saint-Simon qui vient expliquer pourquoi il tient à mettre l'honneur, la fidélité à sa race, bien au-dessus des préoccupations financières.
Ma mère, qui avait eu beaucoup d'inquiétude de moi pendant toute la campagne de Flandre, désirait fort que je n'en fixe pas une seconde sans être mariée. Je voulais une dot pour nettoyer mon bien, qui était fort en désordre, mais je n'entendais pas pour autant transiger sur la naissance. Les millions ne pouvaient me tenter d'une mésalliance, ni la mode, ni mes besoins, me résoudre à m'y ployer. Un duc se devait d'épouser une fille de duc. Un marquis récent est inférieur à un simple chevalier d'ancienne famille. C'est l'ancienneté qui prime. Je veux bien avouer que ma passion la plus vive et la plus chère est celle de ma dignité et de mon rang. Ma fortune ne va que bien loin après, et je la sacrifierai, et présente et future, avec transport de joie pour quelque rétablissement de ma dignité. Rien ne l'a tant et si profondément avili que lorsque Louis XIV légitima ses bâtards. J'étais seul, sans appui, et je voulais un beau-père et une famille dont je puisse m'appuyer. Je demandais une des filles du duc de Beauvilliers, n'importe laquelle. C'était lui qui m'avait charmé et que je voulais épouser. Mais aucune n'était disponible. Je me rabattais sur la fille du maréchal de Lorme.
On est loin, évidemment, ici, des mariages d'amour que le romantisme et puis la fin de la période bourgeoise en France ultérieurement va appuyer. En même temps, on se dit en entendant Saint-Simon qu'il lui fallait néanmoins de l'argent pour tenir son rang.
Alors l'extrait de Saint-Simon n'est pas sans contradiction, parce qu'il insiste au début sur la nécessité de faire une belle alliance avec une belle dot, et ensuite il explique que ce qui lui importe, c'est la qualité de la demoiselle pour tenir son rang. En réalité, ce que ça montre bien, c'est l'articulation entre le rang et la fortune d'une certaine façon, c'est-à-dire tenir son rang, c'est aussi tenir financièrement son rang, avoir les moyens de rester à la cour, mais au-delà de ça, ce qu'il montre aussi très bien, c'est qu'il a besoin d'appui pour faire sa propre carrière, et sa propre carrière est aussi une carrière de fortune, dans tous les sens du terme, fortune nobiliaire et fortune immobilière. Là, on voit, cet extrait est très intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on voit implicitement derrière l'idée que ce qui importe, c'est le rang et la dignité, implicitement, il doit être soutenu par une fortune et que les enjeux sont aussi des enjeux économiques. C'est aussi l'articulation, d'une certaine façon, entre les statuts de l'Église et les statuts de la cour, et notamment d'arriver à avoir dans sa famille au sens large, dans sa parentèle, des hauts prélats et de la grande noblesse. Et finalement, l'arrivée des filles de financiers. Si, par ailleurs, la maison est très bien assise, alors ça s'efface par tous ces soutiens qu'on peut avoir dans l'église et dans la cour. Est-ce que Saint-Simon laisse entendre, d'ailleurs, dans son extrait ?
Parmi l'expression réitérée de sa haine pour l'ascension des bâtards du roi. Mais vous parlez des prélats, quelle place ont-ils dans cette hiérarchie ? Après 1905, la République a eu quelques difficultés à savoir où les représentants des cultes devaient figurer lors des cérémonies officielles.
Alors les prélats ont une place éminente d'abord dans toutes les cérémonies relatives à l'Église.
C'est légitime.
Ça, c'est légitime. Et c'est important parce qu'il y en a beaucoup, y compris à la cour, hein, la messe du matin, un certain nombre d'événements où les prélats ont un jeu. Les disputes se font très rarement avec les prélats qui ont un ordre à eux, d'une certaine façon, et qui donc se trouvent pas en rivalité avec les nobles d'épée et les nobles de robe. Sauf avec la question des cardinaux qui est très importante, c'est-à-dire des cardinaux ministres qui ont à la fois un rôle politique important et une position religieuse.
Richelieu, Mazarin, Dubois.
Richelieu, surtout Richelieu, Mazarin, sont en fait l'ascension de favoris pour lesquels on va s'appuyer sur la dignité ecclésiastique pour essayer de les mettre à une position suréminente à l'intérieur de la cour. À la fois le fait que ce soit des favoris et le fait que ce soit des religieux, des ecclésiastiques, va provoquer des tensions très très fortes parce que ça met du désordre en quelque sorte dans les règles de l'attribution des rangs.
Je voudrais, Fanny Cosendet, que nous terminions cette émission consacrée aux hiérarchies, aux préséances sous l'Ancien Régime, en nous demandant si elles seront complètement dépassées. Nous sommes en train de répondre probablement pas. Je voudrais que nous jetions quelques lumières sur la situation des femmes. Pour introduire cette ultime réflexion, cet extrait des mémoires de la baronne d'Oberkirch, publié plus tard en 1853, lu par Jacques Lenoble dans Les chemins de la connaissance sur France Culture le 13 septembre 1990. Nous avons beaucoup emprunté à cette excellente émission. La baronne d'Oberkirch vient de Vienne et est plus habituée aux coutumes de la cour à l'époque de l'impératrice Marie-Thérèse qu'à celle de Louis XVI en France. Et écoutez-la.
J'ai eu l'honneur de voir les enfants de France. Madame Royale avait 7 ans et demi. Elle était fort grande pour son âge. Elle a l'air noble et distinguée. Madame de Macao, qui était sous-gouvernante, l'élevait à merveille. Elle s'en occupait bien plus que la gouvernante en titre. J'en eus la preuve dans cette visite et cette circonstance ne manque pas d'intérêt. En voyant cette princesse si grandie et si embellie, je l'ai trouvée charmante et accoutumée que je suis à la liberté des cours d'Allemagne, je n'ai pas pu m'empêcher de le dire. Cette liberté déplut à Madame Royale et je le vis à l'instant sur son visage. Son regard si fier s'anima, ses traits se contractèrent et elle me répliqua sans hésitation « Je suis charmée, Madame la Baronne, que vous me trouviez ainsi, mais je suis étonnée de vous l'entendre dire. » Je restais tout interdite et j'allais me confondre en excuses lorsque Madame de Macao m'arrêta et reprit avec un grand sang-froid « Ne vous excusez pas, Madame. » Madame Royale est fille de France, et elle ne fera jamais passer le bonheur d'être aimée après les exigences de l'étiquette.
On peut rappeler que cette fille de France vivra jusque sous la monarchie de Juillet.
Ce que montre cet extrait, c'est le poids de l'étiquette. Alors, on le voyait aussi avec Marie-Antoinette et les mémoires de Madame Campan. Le poids de l'étiquette dans le comportement des souverains eux-mêmes. La petite princesse, qui est donc toute jeune, a déjà intégré le fait que les sentiments ne se montraient pas et que la dignité, la qualité même de la princesse était ce qui faisait la grandeur de la charge. Donc son comportement est de ce point de vue-là tel qu'il est décrit. Encore une fois, ce sont des mémoires, donc écrits a posteriori, mais tel qu'il est décrit, son comportement est irréprochable.
Elle est même plus conditionnée que Marie-Antoinette elle-même, avec qui murmurait quelques mots à mi-voix tout à l'heure.
Elle est conditionnée parce qu'elle est dans sa cour. Le problème des reines de France et de Marie-Antoinette, c'est qu'elle a été élevée dans une autre cour où l'étiquette n'est pas exactement la même et où les codes sociaux ne sont pas exactement les mêmes. À partir de ce moment-là, il y a des choses qui trouvent manquer à la cour de France et d'autres choses que ces étrangers trouvent au contraire excessif à la cour de France. Or, la petite princesse, là, le problème qu'elle aura plus tard, qu'elle n'aura pas, elle, parce qu'il se trouve qu'elle va être mariée en France, mais sinon, le problème qu'ont ces femmes-là, c'est d'avoir à se marier dans des cours étrangères dont ils ne connaissent pas les mœurs nécessairement.
Les femmes de la cour peuvent s'affronter avec autant de violence, autant de virulence que les hommes. Comment peut-on, a-t-on le droit de tenir la traîne, en particulier de la reine ? Mille exemples de ce genre.
Les conflits de préséance entre les femmes ne sont pas moindres que ceux qui sont entre les hommes, pour la simple raison que les femmes défendent, comme les hommes, leur patrimoine et le patrimoine qui sera confié à leur descendance. Donc, de ce point de vue-là, elles sont à l'identique. Simplement, les observateurs s'amusent à railler d'autant plus les dérapages, d'une certaine façon, de ces conflits de préséance lorsque ce sont des femmes. Donc, ils disent souvent, les femmes en arrivent au poil et à faire voler le tabouret, par exemple, pour dire qu'ils s'arrachent les cheveux, etc., qui sont des images, en fait, bien entendu, très excessives dans le quotidien de la cour de France. Mais effectivement, derrière ça, les querelles peuvent nous apparaître aujourd'hui totalement dérisoires, même si, il ne faut pas se tromper, porter, par exemple, la Légion d'honneur alors qu'on ne l'a pas, va susciter chez ceux qui l'ont porté la rosette alors qu'on n'a pas reçu soi-même la Légion d'honneur parce que, bon, par usurpation d'une certaine façon, va susciter de forts mécontentements.
Mais c'est assez rare ce qu'on appelle le port illégal de décoration, ça peut vous mener presque en prison.
Eh bien, ça dit quelque chose de l'importance de ces décorations, encore aujourd'hui, pour ceux qui l'ont eu.
A-t-on le droit de mettre 3 lys et non pas seulement 2 sur un manteau ?
Et de la même façon, sous l'Ancien Régime, la taille du manteau, la longueur du manteau, la qualité de ceux qui vont le porter, le nombre de fleurs de lys sur le manteau, la qualité même de certains tissus, tout cela détermine la qualité des personnes et effectivement les abus, sinon les usurpations, les abus sont fortement condamnés. Les princesses sont capables de se disputer entre elles là-dessus, sont même capables, dans un certain nombre de cas, de retarder la cérémonie, voire de refuser de s'y présenter si elles trouvent que la longueur de la queue est insuffisante, la taille des fleurs de lys, etc., ne correspondent pas à ce qu'elles estiment devoir recevoir.
Vous avez mis au jour, Fanny Cosendet, un manuscrit qui n'est pas exactement daté, mais qui doit remonter au milieu du XVIIe siècle, et qui, sur la situation de la femme, est assez explicite, puisqu'on peut y lire. On voit aisément que non seulement parmi les animaux, mais aussi parmi des choses inanimées, il y a quelques différences à faire, car un cheval vient plus grand qu'un âne, ou plus grand qu'un bœuf, un diamant est de soi-même plus considérable que du verre, mais parmi les personnes raisonnables, en particulier l'homme a la préséance sur la femme, le père sur l'enfant, les anciens sur la jeunesse, etc. L'homme a la préséance sur la femme, c'est bien clair.
Cette citation consiste à montrer, à insister sur le fait que l'ordre à la cour est aussi un ordre naturel. Et que donc c'est voulu par Dieu et qu'en conséquence, l'homme a la préséance sur la femme. Mais il ne faut pas oublier, ça c'est très important, que à dignité équivalente, l'homme a la préséance sur la femme, c'est-à-dire entre un duc et une duchesse dans le couple, l'homme passera devant son épouse, mais la duchesse elle-même passera devant toutes celles qui sont de qualité inférieure, donc la femme et tous ceux également qui sont de qualité inférieure, de sorte que la femme n'est pas du tout dans une position globalement inférieure, elle n'arrive que dans l'extrême niveau de distinction que sont l'époux et l'épouse, alors elle passe derrière l'époux. Donc on peut dire qu'elle est à la fois de même dignité et très légèrement inférieure à l'époux.
On peut préciser que concrètement, passer après, cela veut dire être soit en position inférieure, physiquement, sur une chaise inférieure, ou bien être à gauche plutôt qu'à droite. Ça date de ce moment-là.
Ce sont effectivement les critères hiérarchiques, sont des critères spatiaux. Donc, devant vaut mieux que derrière, dessus vaut mieux que dessous, et à droite vaut mieux qu'à gauche. Et ce sont des critères qu'on retrouve à peu près dans toutes les organisations hiérarchiques. Donc, ce sont des données quasiment anthropologiques.
Il faut probablement, pour conclure, insister, Fanny Cosandet, sur le fait qu'il y a toujours eu des protestations, des ironies, des contre-pouvoirs. Nous en voyons tout à l'heure un exemple avec le poème du Tabouret, à l'époque de la Fronde. Mais évidemment, les choses s'accentuent encore à la veille de la Révolution française. Les chansons subversives, les poèmes qu'on se passe sous le manteau contribuent à installer en dérision toutes ces pratiques et préparent en réalité la Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme.
Les questions de rang restent jusqu'à la fin de la monarchie, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, donc une question qui est extrêmement sensible chez les courtisans, mais tellement sensible qu'ils finissent par s'enfermer dans ces questions-là, alors que au même moment, la monarchie est menacée dans ses fondements et ses principes mêmes. Et j'ai un souvenir de chercheuse, là, lorsque je travaillais au manuscrit, sur les conflits de rang et les disputes entre deux princes dans les années 1770-1780. Au même moment, j'avais un collègue qui était en train de lire les chansons satiriques qui circulaient à Paris sur la monarchie, le roi, la reine et ses chansons un petit peu grivoise, qui minait très profondément la monarchie. Et là, on voit la rupture qu'il peut y avoir entre un monde finalement séparé complètement de la société, au point de ne pas voir quels sont les enjeux réels qui sont dans les rues au même moment.
Et comment expliquer que l'ironie populaire, les libelles, les chansons de toutes sortes, se soient dirigées principalement contre les reines? Il y a un beau livre de Chantal Thomas, consacré en particulier à la haine déversée envers Marie-Antoinette.
Parce que les reines sont des étrangères et parce que les reines ont à la fois toujours une position de pouvoir et une illégitimité dans cette position de pouvoir, puisque la loi salique interdit aux femmes de monter sur le trône. Donc ces tensions-là, en fait, amènent à ce que les critiques portent essentiellement sur la femme, sur l'épouse, plutôt que sur le prince lui-même, qui est un modèle, en quelque sorte, auquel on ne touche pas directement. Sauf à la fin de l'Ancien Régime, qui montre précisément la faiblesse du régime quand le roi lui-même commence à être attaqué en même temps que son épouse.
Merci beaucoup, merci Fanny Cosandet. Je donne le titre de votre ouvrage sur lequel nous avons appuyé cette émission, qui est publié dans la prestigieuse Bibliothèque des Histoires que dirige Pierre Nora. Le livre s'intitule « Le rang », tout simplement « Le rang », avec comme sous-titre « Préséance et hiérarchie dans la France d'Ancien Régime ». Sans être indiscret, je peux vous demander pourquoi vous avez été porté vers cette curiosité particulière ?
Parce que on a toujours dit que les cérémonies étaient un modèle d'ordre et que dans les archives que je trouvais sur les cérémonies, j'avais essentiellement du désordre. Donc j'ai cherché à faire concilier l'ordre et le désordre et comprendre ce qui se jouait derrière ces questions-là.
D'autre part, vous avez publié, je le disais, il y a quelques années, en 2000, aux éditions Gallimard aussi, dans la même collection, un livre intitulé « La reine de France, symbole et pouvoir ». Vous aviez commencé vos recherches en appliquant votre curiosité du côté des femmes.
Du côté des femmes, du côté de la monarchie aussi et de l'organisation monarchique, dont ce livre sur le rang est le prolongement, puisqu'il s'agit toujours de comprendre quels sont les rapports entre le pouvoir, le patrimoine des différents acteurs et l'organisation sociopolitique.
Merci beaucoup. Merci Fanny Cosandet. Je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices qu'ils peuvent trouver une bibliographie complète sur notre site, plus complète, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés, qu'ils peuvent écouter, réécouter, télécharger cette émission, qu'ils peuvent s'abonner au podcast pour être sûr de n'en manquer aucune. Samedi prochain, nous parlerons de l'actualité de Maurice Barrès. C'est un de ces auteurs qui a eu une prodigieuse influence, une grande popularité dans une partie de l'opinion française, à cheval entre le 19e et le 20e siècle, et qui est aujourd'hui quelque peu négligé. Actuel pourtant, nous verrons comment, nous le verrons avec Michel Lémarie. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission préparée par Nathalie Lempereur, avec aussi Jeanne Guéroux, une émission réalisée comme chaque samedi par Patrick Molinier, avec Nicolas Delmas à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et je vais maintenant passer le témoin, le relais, à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.